14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes sur Sud Radio et nous sommes ensemble durant ces 2 heures et nous allons être débordants d'énergie. C'est vrai que l'énergie, on en parle beaucoup en cette fin d'été et bon nombre de gens s'inquiètent. Mais rassurez-vous, aujourd'hui on ne va pas parler de gaz ou d'électricité, mais d'une énergie bien plus précieuse et surtout qui est à portée de votre main. Ces mots Bruxelles soignent des gens depuis de nombreuses années. Il va nous expliquer dans un instant comment on peut faire circuler cette énergie à l'intérieur de notre corps pour aller bien, pour se maintenir en bonne santé. Et vous imaginez bien que la sexualité est sans nul doute ce qui fournit le plus d'énergie à notre organisme. Avec l'amour aussi, évidemment, mais c'est donc beaucoup mieux que les éoliennes. Nous évoquerons également tout ce qui nuit à notre santé. Le stress, bien sûr, mais les peurs. Et elles sont nombreuses, nos peurs. Alors certaines peurs, bien sûr, sont justifiées, mais la plupart de nos peurs sont des peurs qu'on s'invente. En tout cas, qui sont installées par rapport à des croyances. Et c'est ça, peut-être, qu'il faut apprendre à mieux gérer. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Vivre en meilleure harmonie avec son cœur, son corps, voilà un programme bien séduisant que je vous propose avec Seymour Bruxelles, de quoi préparer un excellent week-end. Notre numéro, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Bonjour Seymour Bruxelles.
Bonjour Brigitte Lahaye.
Merci d'être avec nous Seymour. Vous parlez beaucoup d'énergie tout le temps quand vous venez nous voir et vous nous parlez aussi de la capacité qu'on a à aller mieux ou à aller moins bien. Parce que l'un ne va pas sans l'autre.
Oui, c'est les deux côtés de la même médaille. Donc, la capacité d'aller mieux, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, plutôt. Et
oui,
le corps auto-guérisseur, c'est justement les capacités d'auto-guérison du corps, de la cellule qui peut se guérir elle-même.
Alors, c'est le titre de votre livre qui vient de sortir au Courrier du Livre, que vous avez co-écrit avec le médecin Rodolphe Meyer, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel, que j'ai eu la chance d'ailleurs de rencontrer grâce à vous. Et en sous-titre, c'est thérapie manuelle bio-énergétique. Alors, tout ça est un peu, nouveau sans doute pour la plupart des gens qui nous écoutent. C'est un livre très complet, très très sérieux.
On rigole des fois, on met des petites blagues, mais il faut les trouver. Les citations, par exemple.
Non, mais c'est vrai. Vous avez écrit des livres plus grand public, si je puis dire.
Oui.
Celui-ci est assez sérieux, mais quand même est intéressant. Vous évoquez votre méthode à Rodolphe Meyer et à vous-même, Seymour Bruxelles, la méthode Surrender. En deux mots.
Alors, nous n'avons rien inventé. Hein. Plus rien aujourd'hui. C'est un melting pot, une salade de différentes méthodes qui existent déjà. C'est basé d'abord sur l'ostéopathie, et l'ostéopathie qui a évolué en plus d'un siècle et qui est devenue l'ostéopathie bioénergétique, basée aussi sur les principes de la médecine chinoise, sur le Qigong et sur la méditation zazen. Et l'aptonomie aussi, qui est plus connue dans le milieu de la conception et puis de l'accouchement. Mais on n'invente rien. Et cette méthode, elle est enseignée depuis 15 ans maintenant. Nous avons pas mal de thérapeutes qui l'utilisent au quotidien. Et elle fait ses preuves et elle a été donc intégrée dans le milieu médical, dans plusieurs services. Elle existe aujourd'hui dans certains milieux, en post-opératoire, à la clinique Arago, par exemple.
C'est surtout basé sur le toucher, en fait.
Tout à fait, le toucher et surtout la transmission de l'énergie. Le contact énergétique, la réception, l'émission d'ondes qui permettent au corps d'être stimulé et de recouvrir la capacité de ces systèmes à s'auto-réguler.
Alors, j'ai lu dans votre livre que 99% de vos consultations sont liées au stress. C'est énorme,
hein ? Oui, parce que le 1%, je ne sais même pas ce que c'est. Mais oui, le problème principal, le stress, ça veut dire quoi ? To stress, ça veut dire serré, ça veut dire tendre. Voilà. Alors, la seule réponse de nos tissus, des tissus du corps face à une agression, physique ou psychique, hein, c'est la même chose, c'est la réponse, c'est la fermeture. Hein. C'est le tissu, que ce soit une cellule, un groupe de cellules, un muscle, un organe, un os, vont réagir de la même manière face à une agression, c'est la fermeture. À partir du moment...
ce qui est logique d'ailleurs,
oui,
à partir du moment où on est agressé, on se contracte et on se referme.
On cherche la protection.
Ce qui est ennuyeux, c'est que ça reste fermé les trois quarts du temps. C'est ça le problème.
Le problème, c'est l'ouverture, la réouverture qui ne se fait pas toujours, et puis les tensions s'additionnent, s'entassent dans le corps, et puis se referment des systèmes, et qui vont aller jusqu'à des maladies graves.
Absolument. Donc il faudrait déjà prendre conscience qu'on a été qu'on s'est refermé.
Oui.
Parce que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte.
Et oui, puis, parce qu'on vit avec ces tensions, le corps s'organise autour de ces tensions et on les intègre et c'est pas toujours douloureux et on s'en rend pas compte, mais l'échange ne se fait pas, les cellules ne respirent pas, l'organe ne fonctionne pas correctement. Et la structure est importante, c'est la base de l'ostéopathie. Tous les organes sont reliés à la structure. Si la structure est ouverte, la structure osseuse, c'est-à-dire si le corps est souple, respirant, eh bien les organes fonctionnent. Si le corps est fermé, contracté, les organes ne peuvent pas fonctionner.
Oui, on sait.
C'est logique, tout ça c'est basique.
On sait par exemple que si on s'est tordu la cheville, si on n'a pas trop soigné, eh bien ça va finir par basculer le bassin et
voilà,
un mal de dos.
À tous les niveaux, car tous les organes, tous les os sont reliés les uns aux autres. Tout est relié dans le corps humain. Et toutes les cellules communiquent entre elles. Donc, dès qu'il y a un problème, il est répercuté à tous les niveaux. Et psychologique aussi, hein, je répète, hein, qu'il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de barrière entre le corps et l'esprit.
Alors, vous dites aussi que l'énergie masculine est différente de l'énergie féminine.
On a
le droit de le dire, ça encore.
Ah, ça, je sais pas. Mais oui, bien sûr, c'est une fréquence différente. Nous vivons sur des fréquences. Nous avons chacun une identité vibratoire, hormis le sexe. Je veux dire, une identité vibratoire. Il faut savoir que dans la nature, par exemple, je donne l'exemple des feuilles d'un arbre, les feuilles d'un chêne se ressemblent toutes, mais non. Elles sont toutes différentes. Elles ont un champ vibratoire qui est une identité, qui est unique. Et donc, à partir de, quand on parle du sexe, des différences de sexe, eh bien, il y a des vibrations différentes. Vous savez, l'homme n'est pas fait comme la femme. Donc, physiquement, les formes développent des ondes, des vibrations qui ne sont pas les mêmes, puisque nous n'avons pas la même forme.
Et alors, justement, la rencontre du masculin et du féminin, ça doit permettre à mieux faire circuler l'énergie de l'un et de l'autre.
Oui, on cherche la complémentarité, mais si la longueur d'onde est bonne, alors je vais vous raconter, je vais donner un exemple, la longueur d'onde, voilà, c'est quoi la longueur d'onde? C'est la distance, bon, une onde, c'est quoi? C'est une bosse et un creux.
C'est une radio.
Une bosse et un creux, voilà, c'est ça, une onde radio. Donc une onde, c'est une bosse et un creux, d'accord? On va imaginer l'onde à la surface de l'eau, d'accord? Donc la longueur d'onde, c'est la distance entre les deux bosses ou entre les deux creux, ok?
Mm-hmm.
Bon, si on est sur...
Jusque-là, on vous suit.
Ça va? Vous me suivez? Attention. Lorsque les ondes se rencontrent, justement, on parle de la rencontre. Hein, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Bon, si on est sur la même longueur d'onde, eh bien, les ondes s'additionnent et se dynamisent. Je veux dire, elles prennent de la force. Hein. Donc, on voit une vague. Si les ondes sont les mêmes, on voit que la vague prend de la force. Si les ondes,
c'est-à-dire, elles montent de plus en plus haut,
voilà,
et elles descendent de plus en plus bas.
Elles se renforcent.
D'accord.
Par contre, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, si les ondes sont différentes, elles se contrarient. Et elles baissent, elles perdent de l'intensité. Donc sur la rencontre humaine, c'est le même problème.
Comment on se rend compte qu'on est sur la même longueur d'onde ou pas?
Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas. D'abord, on ne cherche même pas. Alors on va avoir comme critère intellectuel.
Nous, on cherche dans cette émission.
Qu'est-ce qu'on va faire? On a des références, on va chercher le prince charmant, la princesse, on a des références archaïques, on va chercher des schémas qui nous appartiennent, des mémoires, et puis on va pas chercher l'essentiel qui est la longueur d'onde, justement. Alors peut-être sur le plan intellectuel,
alors,
est-ce qu'on a les mêmes habitudes?
La longueur du pénis.
Mais ça dépend.
Et
mais
il a une longueur.
Mais oui, ça joue aussi, ça, évidemment. Mais c'est très important, parce que qu'est-ce qu'on recherche? Dans un couple, c'est la complémentarité.
J'entends bien, mais est-ce qu'on peut être un peu plus concret? Parce que pour vous, ça paraît évident, mais franchement, est-ce que ça veut dire que quand on a fait l'amour avec quelqu'un, si après on se sent mieux, c'est qu'on était sur la même longueur d'onde?
Voilà.
Si
c'est très bon exemple. Oui,
d'accord.
Et si on est pompé, ou un des deux, en général, est pompé, sans jeu de mots, c'est qu'il a baissé d'intensité, et il y en a un qui a mangé l'autre. Oui. Et ça arrive dans beaucoup de couples. Et bon, ben voilà, c'est ça. Là, nous, on se connaît, on est sur la même longueur d'onde, parce qu'on pense à peu près pareil. Je veux dire, on a un peu.
Oui, on a des années d'amitié qui font qu'on est sur la même longueur d'onde.
C'est-à-dire qu'on a des bonnes vibrations.
Oui, mais
on n'est pas fatigué quand on se quitte.
Non, on va même mieux. Non, mais Simon Roussel, moi, tout ce que vous dites, d'abord, je vous connais par cœur, et je comprends, et je suis d'accord, etc. Mais ceux qui nous écoutent, malheureusement, beaucoup aimeraient être capables de reconnaître les personnes qui sont sur la même longueur d'onde et celles qui ne le sont pas, mais c'est pas simple.
Ah non, c'est pas simple, c'est même très compliqué. J'ai posé la question à un médecin ayurvédique dans une conférence et il me répond 90% des couples n'ont rien à faire ensemble. Boum, baf, prends ça. Pourquoi fait, parce qu'on ne sont pas choisis.
Ça fait peut-être un peu beaucoup quand même.
Peut-être il a. C'est pas ma réponse, hein, c'est la sienne, d'accord. Et il nous explique que justement parce que ils n'ont rien à faire ensemble, parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, parce que ils ne se complètent pas, parce qu'ils ne s'accordent pas au niveau vibratoire, parce que c'est pas une recherche qu'on fait dès le départ en rencontrant quelqu'un. On a des critères qui sont plutôt visuels, d'esthétique, etc., qui font que on oublie et on est perturbé.
Mais en même temps, on peut être sur la même longueur d'onde un moment, et puis à un moment donné, il y en a un qui a une vague qui prend de l'ampleur, et l'autre qui diminue, et puis on n'est plus sur la même longueur d'onde.
Tout à fait d'accord, il y a une évolution de l'être. Est-ce qu'on évolue à la même vitesse? Pas forcément. La même direction, pas forcément.
Ça voudrait dire, et ça peut-être que les auditeurs vont l'entendre, parce qu'on reçoit souvent Michel Odoul, ça voudrait dire peut-être que quand on commence à être un peu plus malade alors qu'on est en couple, c'est peut-être tout simplement parce que les vibrations, l'énergie est moins bonne.
Et oui, forcément.
Quand je dis malade, c'est des maux de tête.
On n'est pas obligé d'avoir un cancer, mais c'est l'environnement qui détermine le fonctionnement de la cellule. D'accord, l'environnement au sens large et au sens rapproché. Donc le fonctionnement de la cellule, le fonctionnement de l'organe, le fonctionnement de mon corps va dépendre de mon environnement. Si j'ai un bon environnement humain, s'il y a de l'amour, s'il y a de l'attention, s'il y a de l'écoute, ça nourrit tout le monde. Un enfant qui reçoit de l'amour, il est nourri, il tombe pas malade. Mais s'il n'y a pas ces vibrations, cette énergie d'amour qui est la plus forte, mais on tombe malade. Et l'enfant tombe malade.
On sait d'ailleurs que les enfants qui sont dans des familles toxiques vont pas bien sont souvent des gens qui toute leur vie vont avoir des maladies auto-immunes ou des problèmes plus embêtants que la majeure partie des gens, bien sûr.
C'est un bon exemple.
Ça montre bien que finalement enfin, ça, on le comprend aussi. On sait que quand on est, par exemple, touché, caressé, on développe de l'ocytocine. Enfin, il y a tout ça a quand même été un peu démontré maintenant par les neurosciences.
Ah oui, tout à fait d'accord. Mais est-ce que justement, est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce que avec son histoire, avec son passé, est-ce qu'on est capable de donner? Est-ce qu'on est capable de recevoir? Il y a beaucoup d'interférences qui sont dépendantes de l'histoire de chacun.
Et alors, comment on fait pour développer plus son énergie? Un premier conseil, comme ça?
Moi, je parle du Qigong, parce que c'est une méthode, une technique qui permet justement de faire circuler déjà à l'intérieur du corps l'énergie, prendre conscience du...
Donc, la méditation, le yoga...
Toutes ces techniques aujourd'hui qui, heureusement, sont à la disposition de beaucoup de gens, et sont très importantes pour survivre dans un monde qui est agressif au possible, avec des mauvaises ondes, justement. Regardez, on n'a jamais été autant agressé par les champs électromagnétiques sur cette Terre, il n'y en a jamais eu autant, et là, ils sont en train de nous couvrir avec des satellites, on ne sait même pas ce que ça va donner. Je veux dire, la 5G, etc. Voilà. Comment le corps reçoit toutes ces ondes? Et donc, si on n'a pas un minimum, justement, de conscience, et si on ne fait pas un minimum d'exercice, peu importe. Mais il faut faire bouger le corps, il faut le libérer de ses tensions.
Décidément, cette semaine, on aura fait bouger le corps. Déjà, on était mercredi avec Lucie Vincent, neurobiologiste, qui disait que tout passe d'abord par le corps. Et on va continuer dans cette voie aujourd'hui.
On ne va pas le contredire.
Non, je ne crois pas. Allez, on fait une petite pause et on va donner la parole à Tiff, qui nous a rejoint et qui, justement, s'est mise à la méditation. Elle nous raconte ça dans un instant.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Et nous avons Simon Broussel qui est avec nous, qui nous propose de nous ressourcer énergétiquement en prenant un petit peu plus notre corps en main. Bonjour Tiff.
Bonjour.
Et je pense que vous êtes tout à fait sur cette longueur d'onde, si je puis dire.
Tout à fait, je suis exactement sur cette longueur d'onde et j'ai adoré écouter cette petite introduction.
Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous faites vous?
Alors, moi, du coup, je suis podologue de formation et j'ai arrêté de travailler dans ce domaine-là pour me consacrer dans une profession qui me ressemble un peu plus et qui me remplit de joie et qui est beaucoup axée sur un peu le développement personnel, le mindset et les vibrations, si je puis dire.
D'accord. Et vous avez changé pourquoi? Parce que vous aviez envie d'être...
J'avais envie d'être plus libre dans ma profession. J'avais envie de pratiquer quelque chose qui m'offrirait plus de bonheur, plus de joie et plus de temps, de liberté que je n'avais pas dans mon ancienne profession, par exemple.
Alors, podologue, on est réellement dans quelque chose d'assez structuré. Hein,
oui, puisque, complètement, d'assez structuré, de très logique et de très...
Et là, aujourd'hui, quelle serait votre profession? Vous diriez quoi?
Je fais de l'accompagnement individuel, enfin accompagnement de la personne. Donc ce serait un peu aider et améliorer le quotidien des personnes qui sont un peu en souffrance. Parce que comme j'ai été dans cette situation-là, je pense que c'est plus facile pour moi de m'identifier et de comprendre quels sont les problèmes que certaines personnes peuvent rencontrer. Mmh. J'ai un podcast également et donc il y a plein de choses comme ça qui me passionnent aujourd'hui et que je n'aurais pas pu faire il y a quelques temps. Et voilà.
Alors, vous les accompagnez avec quelle méthode, quelle technique ?
Ah, alors, c'est beaucoup à travers les réseaux sociaux. J'ai un site internet qui me permet d'offrir aux personnes qui...
Oui, mais ça, c'est pas le réseau social, c'est autre chose. C'est votre manière de vous faire de la pub. Mais
oui, c'est ça.
Comment, qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous avez un patient en face de vous ?
Eh bien, déjà, on identifie un peu le problème et
voir en parole.
D'accord. En discutant, en essayant de trouver d'où viennent les traumas que cette personne peut avoir, en essayant d'identifier quelle dynamique.
Oui, donc là, pour l'instant, on est dans la parole.
Oui, c'est ça, c'est exact. Bah, après, la parole, c'est très important. En tout cas, avec moi, ça a été quelque chose de très intense parce que j'ai appris, et il y a une phrase qui me touche énormément, c'est ce qu'on ne dit pas avec ses mots se transforme en mots, M-A-U-X. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant et c'est à travers mon expérience que je sais que je peux aider d'autres personnes. Et la méditation, en l'occurrence, par exemple, a été pour moi quelque chose qui a complètement changé ma vie. Et j'aide les personnes à travers des méditations guidées, par exemple. Je l'aide à les accompagner.
Alors, qu'est-ce que vous appelez des méditations guidées ?
Des méditations guidées, qu'est-ce que c'est ? Les méditations guidées sont des méditations, des formes de méditation qui ciblent un problème particulier, par exemple le stress, admettons. Ça va être une méditation où on va amener la personne à entrer dans un état de conscience, pleine conscience parfois, si on peut essayer, d'une conscience altérée où on va cibler principalement le stress, essayer de l'identifier, de le personnifier quelque part.
Donc c'est-à-dire que vous vous concentrez sur votre stress ?
Par exemple, oui, c'est ça. Oui. Et de voir
parce
le
que
stress
c'est
comme
un peu à l'opposé de la méditation, puisque la méditation, c'est justement ne penser à rien.
Ah, je suis pas d'accord avec forcément ce que vous dites.
Mais vous avez le droit.
Bien sûr. Je le pensais aussi également. Mais en tout cas, quand je pratiquais la méditation et je ne pensais à rien, ça ne fonctionnait pas.
C'est difficile. Moi, c'est, ça, je vous l'accorde.
C'est difficile.
Mais c'est pour ça que c'est important de la vraie méditation au sens total.
C'est de ne plus
penser à rien. Mais c'est très difficile.
Méditer, ça veut dire se centrer, c'est-à-dire poser sa conscience dans son centre. C'est quoi le centre ? Le centre, c'est pas le mental, justement, c'est pas la pensée. Le centre énergétique de l'homme, c'est son hara, c'est son ventre, l'assiette du cavalier. Et
c'est entre le nombril et le périnée, en quelque sorte.
Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, c'est ça la vraie définition de la méditation, c'est se centrer, c'est-à-dire prendre conscience de ce centre et l'habiter pleinement. Voilà. Et pour le faire, il faut quitter le mental et quitter la pensée. Donc là, c'est autre chose que vous proposez. Mais moi, ce qui m'intéresse dans
ce que vous venez de dire... Mais c'est intéressant aussi, Tiff. On n'est pas du tout en train de dire que c'est pas bien.
Et ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est la dissociation, d'après ce que j'ai compris, peut-être que j'ai pas bien compris, mais c'est la dissociation entre le problème et l'être. C'est-à-dire que... Et le mental, c'est-à-dire comprendre que nous ne sommes pas que le mental... Et se dissocier du stress, vous venez de le dire, méditer sur le stress, c'est-à-dire déjà le considérer comme un objet, et non pas comme ce que je suis. Voilà. Mm-hmm. Est-ce que j'ai bien compris ?
Oui, c'est intéressant ce que vient de dire Simon Broussel, c'est-à-dire que vous aidez la personne à comprendre que le stress, c'est pas elle, c'est quelque chose extérieur à elle.
C'est quelque chose dont la personne fait l'expérience, oui, tout à fait.
Et donc...
Qui fait l'expérience de ce stress ? Et là, on en vient au vrai fond de la méditation, c'est le soi.
On est d'accord.
Eh bien, vous voyez, c'est moi en Bruxelles, vous avez mieux compris que moi.
Pour une fois.
Après, les mots, c'est le langage le moins clair, quoi.
Non, mais c'est vrai qu'on parle de choses qui sont faciles à comprendre quand on est dedans, mais pour des gens qui sont complètement ballottés par leurs émotions, le stress, leurs peurs, c'est compliqué parce qu'elles ne sont plus du tout capables d'être avec leur centre, comme vous le dites.
C'est
pour ça que c'est si compliqué. Et encore une fois, moi, je pense que c'est déjà la première chose à faire, c'est la prise de conscience qu'on est totalement ballotté par tout ça. Et à partir de ce moment-là, on va peut-être pouvoir tout doucement se recentrer, mais c'est un travail de longue haleine, c'est pas simple.
Et l'émotion est là pour nous perturber, nous troubler et nous empêcher d'être centrés. Mais le problème, justement, la langue française dit « j'ai un problème ». J'ai un problème. Donc du verbe, c'est « avoir ». Ça veut dire que je ne suis pas le problème. Mais le mental nous fait croire qu'on est le problème. La première chose, c'est cette distanciation avec le problème. C'est que je ne suis pas le problème. Et ça, c'est très difficile déjà à comprendre. Et se détacher du problème, c'est le regarder déjà différemment. Je pense que c'est ce que vous cherchez avec vos patients.
Absolument, je crois que c'est tout à fait ça. Merci Tiff, en tout cas, de cet échange. On va continuer dans un instant avec notre sexy news, Philippe Brenneau, qui nous a rejoint. Et je ne sais pas trop bien de quoi il va nous parler. Mais l'entrefilet, je ne sais pas, on va voir. C'est peut-être
surprise.
C'est peut-être au barbecue, je ne sais pas.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant sexy news.
Eh bien, c'est mon Bruxelles. Nous accueillons Philippe Brenneau. Alors, vous avez aussi beaucoup de casquettes, mais des casquettes sérieuses. Psychiatre, anthropologue, sexologue et écrivain, puisque même écrivain de romans, puisque le dernier, c'est Taxithérapie aux éditions Les Arènes. Mais vous allez nous parler d'entrefilet. Alors, je ne sais pas, il y a un rapport avec la viande.
Ben oui, la pêche.
Ah,
je vais vous demander, qu'est-ce que c'est qu'un entrefilet? Pourquoi je vous ai dit ça? Il y a enfilet, il y a refilet, il y a l'entrefilet. Vous parlez de la mange, de la nourriture. Non, ce n'est pas un barbecue. Il n'est pas rare, Brigitte, que des événements importants ne fassent l'objet que d'un entrefilet dans les médias.
Ça, c'est vrai.
En raison de l'importance de l'actualité ce jour-là, un exemple, j'en ai cherché, j'en ai trouvé d'autres, mais un exemple extraordinaire, le transfert d'une partie des cendres du Bouddha, de réellement Sakyamuni, dans la grande pagode de Vincennes, le 28 septembre 2009, c'était il n'y a pas longtemps, a été passé sous silence en raison de l'émotion suscitée par un massacre de foule en Guinée ce jour-là. Avant-hier, 21 septembre, l'accès gratuit à une contraception d'urgence pour toute femme a été rapidement mentionné, puis a disparu dans l'après-midi devant l'émotion suscitée par le discours de Vladimir Poutine menaçant de déclencher une troisième guerre mondiale. Or, et c'est important de le mettre en parallèle avec quelque chose qui n'est pas rien tout de même, cette espèce de menace poutinienne. Or, cette annonce est de première importance pour la liberté et l'existence sociale des femmes dans notre pays. C'est ma marotte, j'y reviens, j'en ai déjà parlé. Pourquoi ? Je crois, surtout pour les plus jeunes générations, c'est une des choses les plus importantes qui soit arrivée et qui est les plus menacées. Le droit sans intermédiaire, c'est quelque chose de très étonnant ce qui va se passer.
Oui, oui.
Le droit sans intermédiaire, car dans ce qui a été annoncé par François Bonne, le ministre de la Santé, il n'y aura pas besoin d'une prescription médicale pour l'obtention de la pilule du lendemain. Cette femme va être seule décisionnaire. En effet, que le rapport sexuel ait été consenti ou non, la conséquence gestationnelle de l'acte sexuel appartient à cette femme et à elle seule. J'ai été ce matin dans un congrès de gynécologie avec Christian Jamin, que vous allez recevoir lundi, je crois.
Mardi.
Quelqu'un nous parlait justement de la contraception dans l'islam, dans lequel, et c'est dans d'autres sociétés très patriarcales, la contraception et l'IVG ne sont possibles que sur autorisation du mari. Donc on est dans quelque chose qui est une très grande avancée, notamment cette possibilité d'abord réservée aux jeunes filles mineures, puis gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans, jusqu'à aujourd'hui. La pilule du lendemain, c'est le lévonorgestrol. Il faut savoir, pour rappeler pour les auditeurs, auditrices, qu'elle est active le lendemain, mais également le surlendemain. Mmh. Hein, ça marche sur 3 jours, pas plus. Mais c'est très important parce que ça donne une grande liberté. On sait combien il y a, malheureusement, d'IVG qui ne sont pas prises à temps. Donc cette pilule du lendemain va devenir gratuite pour toutes les Françaises, quel que soit leur âge, en pharmacie et sans ordonnance. Et en complément, ce qui est intéressant, le ministre, enfin Dixit le ministre, on va voir, mais je pense que ça va se faire, Il a également annoncé la gratuité du dépistage des IST.
Oui, c'est ce que j'allais ajouter, mais je vois que vous avez suivi l'information.
Voilà, j'ai essayé de regarder les entrefilets. Et ça sera également gratuit sans ordonnance. Ces deux mesures, normalement, vont passer dans la loi de finances de la Sécurité sociale, qui sera présentée lundi prochain. Alors, je termine simplement en vous disant ceci. Si j'insiste sur cet entrefilet, c'est que dans les deux grands acquis féminins de la fin du XXe siècle, contraception, IVG, j'y reviens tout le temps, ils sont aujourd'hui très fragilisés, ça on le sait, remis en question en Pologne, Hongrie, USA, il y a même une sorte de bipartition actuellement avec les États du Sud et les États du Nord aux États-Unis. C'est pourquoi il faut souligner que toute avancée dans ce domaine est importante et rappeler deux grandes questions qui sont aujourd'hui toujours pas réglées. La première, c'est où en est la contraception masculine? On n'en parle jamais.
Il y a eu des tentatives, hein. C'est juste que vous fabriquez un petit peu beaucoup de spermatozoïdes par rapport à nous qui n'en fabriquons qu'un ovule.
De moins en moins, quand même. La spermogénèse humaine est énorme, en baisse.
Oui, enfin, ça va, il reste encore.
Énorme, non. Parce que, en fait, c'est très relatif. Parce que il y en a un peu, il y a tellement de spermatozoïdes produits. Mais ce que je voulais dire, c'est où en est la contraception masculine, la promotion de la vasectomie, jamais. Ça, on n'en parle pas.
Un petit peu ici, mais...
Et les hommes, là, c'est fait dans certains pays, mais en France...
Oui, dans les pays du Nord, on en parle un peu plus.
La recherche sur les contraceptifs hormonaux...
Le slip chauffant, ça marche moyennement.
Voilà. Alors là, si on veut avoir un bébé, on prend du slip chauffant.
Non, mais c'est vrai, ça marche moyennement, c'est bien ce que je dis. Oui.
Surtout avec la modération de l'énergie, ça ne va plus marcher. Mais la deuxième question... qui est l'inscription dans la loi de l'IVG et de la contraception. Ça a été avancé, c'est toujours pas dans les tuyaux, parce que je dirais attention aux effets d'annonce, mais soyons attentifs aux entrefilets. Il y a beaucoup de choses très importantes qui vont passer, et puis on n'en parle plus.
Oui, mais c'est vrai que... Enfin bon, j'avais entendu l'information, donc elle est quand même passée.
Oui, bien sûr.
Parce que moi, j'écoute pas énormément les informations, donc j'ai quand même entendu cette information. Je veux dire, mais vous avez raison, après l'annonce de Poutine, c'est passé complètement à la trappe. Mais je pense que, c'est triste ce que je vais dire, mais je pense que la plupart des gens s'en foutent, ils se rendent pas compte de l'importance que ça...
Oui,
je suis d'accord avec vous.
Parce que ça a été entendu, où tout le monde vous dit, c'est vrai, on en a parlé.
La liberté des femmes passe d'abord par leur corps, et on parle du corps aujourd'hui, mais je veux dire, c'est évident, parce qu'on est quand même, pendant pas mal d'années de notre vie, on est quand même sujette, dès qu'on fait l'amour, à se retrouver enceinte. Enfin,
mais un homme n'est pas sujet à se retrouver enceinte.
Ben non, c'est bien pour ça que
c'est pour ça que
c'est un problème des
tout.
Femmes. Mais oui, mais c'est pour ça que c'est vraiment la question de la liberté des femmes passe par le corps et par notamment la contraception, l'IVG, les règles douloureuses. Enfin, il y a énormément de choses et on parlera d'ailleurs de ménopause avec Christian Jamin parce que c'est pareil. On a aussi beaucoup de choses à dire sur les femmes qui ne sont pas suffisamment informées de ce qu'est la ménopause et de comment on peut la passer de manière très agréable et non pas forcément comme une fin de la sexualité.
Mais c'est vrai que, par exemple, en parlant là de ce fait, de cette gratuité, plein de gens vont se dire, c'est vrai, je l'ai entendu, mais comme vous le disiez, Brigitte, je n'ai pas pensé que c'était quelque chose d'important. C'est-à-dire que c'est pas relié. Et même, on parle d'IVG, oui. Alors, la plupart des hommes sont peu conscients de ça. Beaucoup de femmes le savent très bien. Mais c'est quelque chose de considérable.
Et je suis sûre, Philippe Bruneau, qu'il y a encore énormément de femmes qui ne connaissent pas la pilule du lendemain.
Oui, bien sûr.
Alors que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, après un rapport où on n'a pas été protégé, aller prendre cette pilule et ne pas se retrouver enceinte.
Vous pouvez nous rappeler, Brigitte, vous le faites souvent, le chiffre des enfants non désirés chaque année.
Dans le monde, 200 millions.
Oui.
200 millions d'enfants dans le monde chaque année viennent au monde alors qu'ils n'ont pas été désirés. C'est-à-dire que si on informait toutes les femmes, on pourrait réduire ce nombre et avancer. Et d'ailleurs, sur le plan de l'écologie, ça serait une grande avancée. Mais faudrait-il encore que ces pays-là aient envie de libérer les femmes, ce qui n'est pas le cas.
Ah non, c'est plutôt en train de se resserrer là. Sur certains pays, ça devient de pire en pire.
C'est compliqué. C'est vrai que le problème de cette... pour une raison très simple, c'est que l'enfant appartient d'abord, dans la grande majorité du monde encore, très patriarcal, l'enfant appartient à l'homme, et c'est lui qui décide ou non de cette interruption de la grossesse. La plupart du temps, non.
Mais je vais encore plus haut. Je veux dire, le corps des femmes appartient à l'État. Parce qu'un État qui n'a pas suffisamment de membres, bah, finalement, est en faiblesse. Malheureusement. C'est autant sur le plan de l'économie que sur le plan de protéger son pays. Et on le voit avec la Russie qui va avoir besoin de plus d'hommes.
De chair à canon. Et,
exactement. Donc on voit bien que c'est, si on veut demain la paix dans le monde, ça passe par cette contraception et cette liberté du corps de la femme.
Prise de conscience.
Et prise de conscience. Mais merci Philippe Bruneau de nous le rappeler à chaque instant.
Merci avec Brigitte.
Et puis si vous voulez encore mieux comprendre tout ça, vous pouvez aller lire cette incroyable histoire du sexe, cette bande dessinée formidable que je vous conseille, que Philippe Bruneau a écrit avec des dessins aussi formidables de votre...
Laetitia Corinne.
Merci. Merci Philippe. On retrouve Serge maintenant pour trois questions intimes. Bonjour Serge.
Bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité.
Bonjour.
C'est Mour Bruxelles qui est avec nous. Alors justement, je vous pose une question que je ne pose pas souvent, mais c'est Philippe Bruneau qui me l'a inspiré. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à pratiquer la vasectomie?
Ça demande réflexion.
Ça demande une petite réflexion. Mais il me semble que la vasectomie, c'est irréversible, non?
Pas forcément maintenant, mais assez quand même, oui.
D'accord, donc il faut effectivement...
C'est comme les tatouages, on ne peut pas revenir en arrière.
Non mais vous avez le droit, attendez, on ne va pas vous juger, vous avez le droit de dire non, pas du tout, je n'ai pas envie, et puis on comprendra tout à fait. Hein.
je vous dis, la difficulté c'est ça, c'est comme c'est pas, enfin a priori ça ne semble pas être irréversible, voilà, il faudrait connaître les dernières années de sa vie pour savoir que si oui ou non on a besoin, tout au moins si on a le désir de pratiquer la vasectomie, quoi. C'est toujours compliqué, les hasards d'une rencontre ou d'une vie qui change.
Vous avez quel âge aujourd'hui?
Oui, voilà, c'est terminé.
J'ai 55 ans.
55 ans?
Oh, bah, c'est bon, pour la vasectomie.
Vous avez des enfants déjà?
Ouais, vous savez pas, il y a des gens.
Vous avez des enfants?
Ouais, j'en ai deux, ouais.
Bon, bah ça va, vous avez fait votre part.
Ouais, c'est
allez,
bon.
À la terminé. Vasectomie, voilà. Serge, ça suffit. Faut sauver la planète.
Voilà.
Bon, c'est de l'humour, hein. Je ne me permettrai pas de vous imposer ces choses-là.
Bon.
Deuxième question. Dans quel endroit préférez-vous faire l'amour?
Alors, le plus confortable, ça reste le lit, mais après, c'est vrai que les endroits un petit peu exotiques sont beaucoup plus excitants. L'extérieur, c'est sympa, l'extérieur.
Profitez-en, il va bientôt faire froid. Hein.
Ouais, j'ai les moyens de me réchauffer.
D'accord. Et dernière question, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme? Et ne me dites pas ses yeux, hein, parce que cette réponse, je n'en veux pas.
J'ai une préférence pour la poitrine.
Les seins, d'accord.
Ouais,
d'accord.
Ouais.
Donc, vous ne regardez pas les yeux, vous regardez plus bas. Serge, vous pouvez poser une question à Simon Bruxelles, il vous écoute.
Oui, j'aimerais bien. J'aurais voulu savoir si le fait d'être amoureux d'ethnies différentes développe la libido.
D'être amoureux, oui, bien sûr, oui, il y a tout un système.
D'être amoureux, oui, bien sûr, mais si le fait de
d'une autre race, quoi, vous voulez dire.
Voilà, exactement, oui.
On n'a pas le droit de le dire, mais enfin voilà.
Ah, d'être amoureux d'une autre race.
Oui.
C'est pour ça que je parlais d'ethnie.
Ah, d'accord.
Mais moi, je parle
compris,
vrai, vous comprenez, voilà. On est sur Sud Radio,
d'accord.
On parle vrai.
Oui, bien sûr, oui. Pourquoi? Parce que, justement, sur le plan hormonal, il se passe plein de choses, et c'est ce qui nous trouble souvent, c'est-à-dire qu'il va y avoir toute une activité hormonale, peu importe le sujet. Le sujet déclenche chez vous de l'amour, entre guillemets, en tout cas, une réaction hormonale, et bien sûr, ça peut se faire sans problème, mais à comprendre que, c'est ce que Bruce Lipton appelle l'effet lune de miel, c'est-à-dire que, cette réaction hormonale qui va être merveilleuse au début, c'est la lune de miel, va petit à petit redescendre et arriver à un moment donné où là on ouvre les yeux et on se dit qu'est-ce qui m'est arrivé? On a tous eu autour de nous, même si on s'en est pas rendu compte soi-même, des copains, des copines qui d'un seul coup sont devenus complètement
fou d'une personne, à ne plus revoir les autres, à s'enfermer, à devenir très très bizarre, parce que ce sont les hormones qui nous dirigent, ce sont les hormones qui nous gouvernent. Il y a un très bon livre de Jean Duchazeau qui s'appelle justement « Ces hormones qui nous gouvernent ». Voilà. Donc oui, je vois pas pourquoi on pourrait pas, franchement.
Mais ce que vous vouliez comprendre, Serge, c'est pourquoi vous, particulièrement, c'est quand c'est une femme qui est d'une autre culture que vous.
Oui, effectivement, si ça augmentait le désir, le fait d'avoir quelqu'un...
Ça l'augmente chez vous parce que c'est votre façon de fantasmer, voilà.
Mais tout dépend de l'image qu'elle révèle chez vous dans votre inconscient. Qu'est-ce qui va se passer dans l'inconscient? Vous savez, 90% de nos actes et de nos pensées viennent de l'inconscient, du subconscient, on va dire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous le savez? Quelle est la référence qui va se réveiller à ce moment-là? Quelle est votre histoire? Quelle est même peut-être l'histoire de vos ancêtres? Il y avait un de vos ancêtres qui était amoureux d'une femme d'une autre ethnie, et puis ça va se réveiller là, ce jour-là, chez vous, parce que c'est un programme que vous avez. Nous sommes des ordinateurs avec des programmes qui se réveillent dans certaines situations. Donc si vous avez ce programme-là, dans certaines situations, vous rencontrez une femme de cette ethnie, et cling, ça démarre, et puis le système hormonal, comme je viens de vous le dire, lui, il va fonctionner à fond les manettes.
Donc respectez votre système hormonal, et puis n'hésitez pas. Voilà.
Le titre du château, c'est « Ces glandes qui nous gouvernent ». Exactement, ça fait comprendre plein de choses.
Merci Serge, en tout cas. Merci de cet échange. On fait une petite pause, c'est mon Bruxelles. Oui, on se retrouve dans un instant avec Alex qui ressent des énergies. Elle nous raconte ça tout de suite.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Seymour Broussel, à l'occasion de la sortie de ce livre, Le Corps Auto-Guérisseur, c'est aux éditions Le Courrier du Livre, dans lequel on apprend à quel point nous sommes de l'énergie, et que plus on la laisse circuler, plus on se sent bien. Eh bien, on va parler ensemble, justement, de ce que l'on ressent. Et il me semble, Alex, que vous ressentez bien les énergies. Bonjour.
Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité.
Bonjour.
Bonjour. Effectivement, je disais à votre collaborateur que c'est vrai que je ressens les énergies, mais depuis toujours, avant même de savoir que c'était des énergies. Et je suis très ouverte à la question pour différentes choses, avec la nature en particulier, mais aussi avec les animaux, et puis les énergies des gens aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des énergies très basses et d'autres assez hautes. Ça fait des différences. Tout ça pour dire que au niveau de mes propres énergies, qui sont plutôt anxieux, enfin moi je suis plutôt anxieux, j'ai aussi des soucis de santé, c'est assez des gros problèmes pour dormir. Parmi d'autres choses, évidemment, quand je vais par exemple dans la nature, ça a tendance à me nettoyer, mais des fois ça le fait pas. Et comme par exemple avec les méditations aussi, j'ai à un moment donné, j'étais très très à fond avec les méditations guidées, de l'enfant intérieur, enfin ce truc-là. J'arrivais bien à visualiser, ça me faisait vraiment un profond nettoyage. Et puis, comme pour beaucoup de choses, après ça fait plus rien. Donc en fait je voudrais me connecter, parce que je sais qu'il y a des sources infinies de choses autour de nous qu'on n'arrive pas à voir, qu'on n'arrive pas à ressentir, mais des fois on les ressent comme ça, et j'arrive pas à m'y reconnecter toute seule. Et des fois j'ai des outils, mais ils me lassent, ils font plus effet.
J'ai l'impression en fait que vous manquez un peu de concentration en règle générale, et surtout de persévérance. Comme si au début vous arrivez à constater quelque chose un effet positif qui vous fait du bien, et puis vous n'arrivez pas à continuer sur cette voie, il me semble.
C'est possible, même si par exemple pour ce qui concerne par exemple les méditations guidées que je faisais, ça a quand même duré un an. Pendant un an, c'est vraiment, là c'est un exemple comme ça, hein, parce que c'est bien plus.
Vous savez, c'est pas beaucoup maintenant.
C'est pas beaucoup. Ouais.
Alex, pour arriver à par exemple à vraiment méditer, il faut plus qu'un an. Hein.
Il faut des années, et quotidien, et un travail quotidien.
C'est vrai. Disons qu'en fait, ce qui est lassant, c'est que tu ressens plus de bienfaits. C'est comme si tu manges et puis que tu continues à avoir faim. Donc
je crois que c'est vraiment ça votre problématique, Alex. Quand on découvre quelque chose, il y a une excitation déjà. Il y a une ouverture qui se fait par l'excitation, et on a un peu l'impression que c'est un peu miraculeux, et on se dit c'est génial, etc. Et après, eh bien, il faut travailler.
Oui. C'est ce qu'on appelle aussi la chance du débutant. Le débutant, il pense pas, il découvre. Donc, il n'a pas d'analyse, il n'a pas de réflexion par rapport au phénomène. Et puis, petit à petit, ben, c'est encore une fois le mental qui va reprendre le dessus parce qu'il n'aime pas, il n'a pas contrôlé. Et quand le mental reprend le dessus, ben, justement, ça ne fonctionne plus.
C'est tout à fait ça.
Ouais, mais j'ai bien compris.
Je vais prendre un exemple très concret qui n'a rien à voir avec tout ce dont vous parlez parce que ça sera plus simple pour que tout le monde comprenne bien ce qu'on est en train de vous dire. Quand on pratique un sport, la première fois qu'on prend un cours, on a l'impression qu'il y a des choses qui se passent. Et puis, on va, pendant quelques temps, avoir l'impression qu'on avance. Et puis, tout d'un coup, on va vraiment avoir l'impression que ça stagne. Et pour continuer à progresser, ça va demander un effort. Et c'est ça qui doit se passer chez vous dans les différentes choses que vous avez essayé,
oui,
tenté.
Alors, un autre exemple concret, si vous voulez, donc, l'aïkido que je pratique, qui est un sport formidable. C'est déjà, ce qui est intéressant dans l'aïkido, c'est que tous les niveaux sont mélangés. C'est-à-dire qu'on a aussi avec nous les enfants. Les enfants sont écœurants, car le maître nous montre une figure, l'enfant monte sur le tatami, il la reproduit immédiatement. Alors que l'adulte, il essaie de reproduire. Et là, il va penser. Il va se dire, bon, alors, il faut que je mette la jambe là en avant, le bras là derrière. Et c'est foutu, je vous dis, c'est le mental qui prend le dessus et c'est perdu. L'enfant, il réfléchit pas. L'enfant, il sait pas. L'enfant, quand il peint, alors, regardez.
Mais c'est pareil pour les langues étrangères. Ouais. Vous avez les enfants qui vont apprendre tout de suite une langue étrangère et puis nous.
Ça passe pas par les mêmes circuits. Voilà, c'est ça. Et la peinture, regardez, les enfants font des peintures merveilleuses parce que l'enfant, quand il peint, il sait pas qu'il peint. Il se regarde pas peindre.
Mais justement, comment on fait pour faire taire le mental? Enfin,
on peut redevenir un enfant.
Ah oui.
C'est ce que Picasso disait. Il disait, j'ai toute ma vie, j'ai cherché à peindre comme un enfant, c'est-à-dire sans réfléchir. Réfléchir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un reflet. On n'est plus dans la réalité. On perd la réalité. Il y a un reflet. La réflexion, c'est ça. Là, le raisonnement, c'est ça.
Alors, c'est facile à dire, mais c'est très compliqué, en fait, Alex. Il faut accepter que c'est très compliqué. Mais dès qu'on dit, je voudrais faire telle chose... Oui. On est déjà dans le mental, absolument.
C'est ça,
c'est pour ça que je dis souvent, il faut revenir au ressenti. C'est la seule chose qui nous permet de progresser.
Voilà. Surtout si vous avez cette capacité, puisque vous avez dit que vous êtes assez sensible, vous êtes
hyper sensible.
Voilà, mais c'est ça qu'il faut justement.
Alors déjà, vous pouvez peut-être fermer les yeux et vous mettre dans vos sens, dans votre ressenti, vous voyez, pour être un petit peu plus coupé du mental.
Oui, alors bon, c'est un petit peu faussé parce que moi j'ai des soucis de santé comme je vous disais, donc j'ai vraiment mal. Et quand j'ai tendance à me faire des fois, enfin c'est pour ça que la méditation on m'avait pas plu au départ parce que le fait de me rester comme ça me faisait encore plus focaliser sur la douleur.
Je comprends.
Voilà. Et là, quand il y avait ces espèces de choses guidées où je partais complètement avec, en plus j'avais vraiment besoin de ça, ça me faisait comme un film quoi. Je partais. Et j'ai plus réussi à le faire de moi-même, voilà, à le recréer de moi-même. Et c'est chiant parce que là, c'est pour les méditations, mais c'est pour d'autres choses. Hein.
Mais parce que vous voulez refaire, et on voit bien, c'est cette...
C'est le contrôle, le mot, c'est celui-là, c'est le mental qui veut prendre le contrôle. Voilà. C'est lâcher prise, toujours on y arrivera, toujours au fameux lâcher prise.
C'est pour ça que je pense qu'il faut revenir dans votre corps et ressentir. Et je comprends bien que, évidemment, si vous ressentez d'abord la douleur, et ben, il faut accepter cette douleur, la ressentir, et après, vous allez lâcher, et peut-être que vous allez pouvoir à nouveau retrouver ces sensations qui vous ont fait du bien. Merci en tout cas Alex. On va donner la petite devinette du jour. C'est moi en Bruxelles, je pense qu'elle va vous amuser. Quelle est la différence entre une femme et une clôture? La réponse c'est tout de suite après les infos. Vous aussi venez nous raconter comment vous essayez de retrouver un peu plus d'énergie, d'aller un peu mieux au 0826 300 300. À tout de suite.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous sommes aujourd'hui avec Seymour Broussel, bioénergéticien, auteur de ce livre avec Rodolphe Meyer, médecin, Le corps auto-guérisseur, avec comme sous-titre Thérapeutie manuelle bioénergétique. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. C'est un livre où vous expliquez à quel point tout notre corps est relié, les os les uns aux autres, le crâne, du crâne au sacrum, et, etc. Et que c'est important de bien comprendre que lorsqu'il y a un organe ou un membre qui ne fonctionne plus très bien, eh bien, on va forcément avoir tout le corps qui va fonctionner moins bien, et que c'est donc important de tout de suite essayer de remettre les énergies en place.
Voilà, de retrouver le mouvement. La vie est mouvement, et dès que le mouvement est altéré, eh bien, les problèmes s'installent.
Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est assez... C'est un livre sérieux, hein, je précise.
C'est un enseignement hein, que nous donnons avec le docteur Meyer hein, depuis pas mal d'années, et qui permet à différents thérapeutes, et aux gens qui ne le sont pas d'ailleurs, de pratiquer cette méthode qui n'est pas une technique.
Voilà, et vous dites bien que l'homme, bah, normalement, ne devrait pas se déformer, se refermer en se raidissant, mais il est montré que les personnes âgées qui ont encore une certaine souplesse, bah, c'est justement parce qu'ils ont fait attention de garder cette mobilité tout au long de leur
voilà,
vie.
Tout à fait.
On peut très bien vieillir, mais c'est un travail, évidemment. Nathalie est avec nous maintenant, mais d'abord, je veux la réponse à ma devinette. Pourquoi, quelle différence il y a entre une femme et une clôture ? Vous avez une idée ?
Ah, c'est moi qui dois répondre.
Ben, bien sûr.
Je dois répondre. Non, alors là, je
n'avais pas réfléchi.
Pas du tout. Je me suis demandé quel type de clôture, mais est-ce que ça peut, c'est important ?
Ça n'a pas d'importance.
Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance.
En fait, c'est très simple. La clôture, tu n'as pas besoin de lui dire je t'aime pour la sauter. La femme, c'est parfois nécessaire. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Merci.
Très bien, la petite devinette.
N'est-ce pas hein. Bon, vous êtes bah, une clôture vous... ou pas, vous?
Bah oui, quand même.
Ça va. Donc, c'est une bonne chose. Bon, en voilà. Tout cas, vous êtes assez anxieuse. Hein,
Oui, tout à fait. Ouais. Je sens qu'au niveau des... Après, c'est ce que j'ai ressenti il y a quelques années. Après, passer la quarantaine, on ressent plus les choses. Enfin, c'est ce que on est plus près de son corps. Enfin, c'est comme ça que j'interprète les choses, en tous les cas. Et j'ai remarqué que c'est vrai que bah, quand on est stressé, bah, on s'en rend même plus compte, peut-être, au bout d'un moment. Et on bloque toute la cage thoracique. Et du coup, ensuite, on n'arrive plus à... Il n'y a plus d'énergie qui passe, en fait. Et du coup, la fatigue se fait sentir. Et moi, ce que j'ai tendance à faire, ce qu'il faut se poser sur la méditation, il faut vraiment essayer de... Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de faire en tous les cas. Je suis une personne qui ne pose pas forcément beaucoup. Donc, la méditation, donc j'essaie vraiment de m'atteler à ça, parce que je pense que c'est une des clés qui est vraiment bénéfique. Mais ce que je fais pour essayer de m'aider à débloquer, c'est d'aller chez l'ostéo pour vraiment me redébloquer. Et après, c'est vrai que ça va beaucoup mieux, quoi.
Bah, c'est le travail de l'ostéopathe, hein, c'est justement de rééquilibrer le corps. Ils sont d'ailleurs extraordinaires. Seymour, vous faites un peu ce travail-là aussi, c'est-à-dire.
Oui,
que...
mais en énergétique, il y a différentes formes d'ostéopathie. L'ostéopathie a évolué, et mais évidemment, nous sommes pour une ostéopathie douce, un travail énergétique et non pas structurel avec des craquements comme peuvent utiliser certains thérapeutes.
Ça peut être dangereux. Là, c'est très doux.
De plus en plus maintenant.
Oui, on va de plus en plus vers cette évolution de l'ostéopathie qui est dite fluidique, c'est appelé aujourd'hui bah, bioénergétique.
Alors, si vous êtes très anxieuse, ben, y a des choses qu'il faut éviter hein, pour justement ne pas aggraver votre anxiété.
Oui, alors j'essaie de travailler sur beaucoup de choses et du coup, j'avoue que c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai pris un travail qui demande toujours un petit peu d'anxiété aussi. Donc c'est vrai que bon, ça me permet vraiment de travailler dessus quoi. Mais là c'est un peu moins évident par rapport à ça effectivement. J'avoue que je cherche des clés.
Vous dormez bien ?
Plus de clés quoi. Alors des fois j'ai l'impression de pas avoir dormi du tout effectivement, mais je dors à suivre en général oui effectivement. Ouais. Après je me lève très très tôt. C'est vrai que j'ai tendance à me réveiller tôt.
Vous dormez combien d'heures en moyenne, combien d'heures par nuit ?
7 heures, quoi.
7 heures,
heures ouais.
La bonne moyenne, c'est 8 heures. Bon, mais vous n'êtes pas loin.
Oui, il manque tout. Il manque toujours un bout, quoi.
Voilà, c'est ça.
Oui, ouais. Parce que le fait de manquer un tout petit peu de sommeil aggrave l'anxiété.
Tout à fait, ça déséquilibre le système nerveux, et donc il a du mal à se rééquilibrer.
Il faudrait essayer de vous coucher une heure plus tôt, si vous pouviez.
Oui, c'est ce que je commence à vraiment travailler là-dessus, parce que je me dis c'est pas possible de rester autant de temps stressé, quoi.
Oui, mais c'est vrai que
c'est un cercle vicieux. Hein.
Quand on est obligé de se lever tôt, on n'a pas le choix, mais on peut s'habituer à se coucher une heure plus tôt. C'est un rythme. C'est toujours la même chose. Hein. C'est voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et à
après,
ce moment-là.
Discipliner. C'est une discipline. Ouais. C'est ce qu'on n'aime pas trop.
Vous voyez, parce
après,
que...
oui, je pense qu'elle est profitable. Ouais. Je pense aussi.
Et puis ensuite, qu'est-ce qui. Le soir, essayer de manger un peu plus léger, d'éviter tout ce qui excite pour justement. Améliorer votre sommeil. Alors à part le sexe, bien sûr.
J'ai eu peur.
Parce que ça c'est au contraire. Alors on est excité,
mais ensuite
on dort bien.
C'est-à-dire que l'excitation c'est le système sympathique qui se met en route et l'orgasme ensuite nous fait passer sur le système parasympathique qui lui correspond à l'endormissement.
Oui, donc faudrait que je fasse l'amour tous les soirs.
Eh ben oui, voilà, ça c'est une bonne chose.
Ou même la masturbation.
Oui,
hein.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que c'est un des meilleurs somnifères, hein, la
formidable.
Sexualité.
Ah, j'ai essayé.
Oui, c'est vrai, j'en doute pas. Ouais. Ouais, ouais.
J'ai essayé une fois, hein, ça marche.
J'en doute pas. Ouais. Après, c'est vrai que je me suis aperçue aussi, c'est vrai que j'avais occulté ça pendant quelques années, boire beaucoup, boire 1,5 litre d'eau, parce que moi je suis une personne qui me pose... me pose pas. Et du coup, ça génère aussi que je me pose pas pour boire.
Oui.
Et c'est tout bête, mais je me suis aperçue à quel point c'était profitable de faire l'effort. Pour moi, aujourd'hui encore, c'est ça. Mais de faire l'effort de boire, et effectivement, ça régénère, quoi. Ça, c'est clair.
Ça, oui, tout à fait. Mais si vous buvez en pleine conscience, c'est une façon justement de vous recentrer, de vous poser. Oui. Mais pas 1,5 litre avant de dormir, parce que là, vous allez être réveillé pour faire pipi.
C'est ça. Alors, j'essaie de les boire
dans
le
la
matin.
Journée.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Oui, et puis je pense aussi qu'apprendre à faire les choses un peu plus tranquillement et en conscience, comme on le dit beaucoup.
En présence. Être présent à ce qu'on fait. Voilà.
Ouais.
Ne pas manger tout en faisant autre chose, prendre le temps de bien manger. Enfin, vous voyez, c'est le matin quand on prend sa douche, prendre le temps de la prendre. Enfin, c'est tout ça qui va tout doucement permettre à l'organisme de
se libérer de ces tensions.
Ouais. Oui, après, oui, c'est vrai que j'ai occulté un petit peu le sommeil, mais c'est quand même une des clés, je pense.
Ah là, c'est l'équilibre.
Hein. Aujourd'hui.
C'est l'équilibre, le sommeil. Ouais. C'est thérapeutique. Hein. Le corps a besoin de se régénérer. Et il le fait par le sommeil.
8 heures.
Et aujourd'hui, la majorité des gens, on a fait des études. Ça baisse incroyablement. Quoi. La moyenne, c'est 6 heures maintenant. C'est de pire en pire. Quoi. Les gens se couchent de plus en plus tard, restent devant les écrans.
Attention, Netflix.
Voilà, par exemple. Voilà. Et puis, se lèvent de bonne heure. Et donc, ça crée des maladies nerveuses. Hein. Et puis, ça dérègle tous les systèmes.
Oui, allez-y Nathalie, je vous en prie.
Moi, par rapport à ça, justement, est-ce qu'il n'y a pas une tranche d'âge qui a besoin de moins de sommeil?
En vieillissant, il paraît que oui, on en a besoin de moins de sommeil, mais parce que ces gens-là ont moins d'activité aussi, sont moins fatigués, et puis peut-être qu'ils ont le temps de se récupérer dans la journée. La sieste, c'est formidable aussi, la micro-sieste.
Oui.
Faut garder du temps pour la sieste, c'est une façon de rééquilibrer le système nerveux, ça marche très bien.
Hein. Mais il faut pas trop dormir. En fait, l'idéal, c'est de prendre l'habitude de se lever et de se coucher à peu près toujours à la même heure. Et comme ça, on a notre rythme qui s'est installé. Alors après, il y a des gens qui sont plutôt du matin, plutôt du soir. Ça, c'est à chacun de découvrir son rythme. Et ne pas, sous prétexte qu'on s'est couché plus tard, se lever plus tard. Vous voyez, il paraît que c'est mieux de garder toujours le même rythme.
Voilà.
En revanche, en effet, la micro-sieste, mais pas plus d'une demi-heure. Hein, parce que sinon,
on est perdu.
On redéséquilibre
le système nerveux.
On a une horloge.
L'horloge biologique, si elle est bien réglée, elle nous rappelle tout un tas de choses. Et vraiment, si on la suit, si on lui fait confiance à cette horloge biologique, c'est l'équilibre de la santé.
Il n'y
a rien de pire que le travail de nuit. Ces pauvres gens qui travaillent la nuit, on a fait des études sur, par exemple, les infirmières de nuit, une population qu'on a pu bien observer, et on s'est rendu compte que c'était 50% de risque supplémentaire de cancer.
Ah oui, quand
la nuit, c'est fait pour dormir. C'est... Mais oui, c'est énorme. Bah, la nuit, c'est pas fait pour travailler. Hélas, il y a des métiers de nuit, évidemment.
Mais d'ailleurs, on le voit bien. On se réveille beaucoup plus facilement l'été parce que le jour, justement, s'est levé. Enfin, sauf si, évidemment, on a fermé tout. On est dans une chambre totalement noire. Mais on a plus envie de dormir l'hiver. Alors, je ne dis pas qu'on est des marmottes, mais quelque part, vous l'avez remarqué, j'imagine, vous aussi, Nathalie, où on est plus à même. On dort mieux l'hiver que l'été. Donc on est très sensible à ce qui nous entoure. On est sensible au ciel bleu. On sait que l'hiver on va plus facilement être triste. Enfin, alors évidemment c'est pas aussi caricatural que ça, mais ça montre bien que on est sensible.
Ben, les dépressions dans les pays nordiques qui ont 2 heures de soleil par jour, c'est terrible. Hein.
Oui. Donc il faut essayer de se protéger de tout ce qui ne nous convient pas, de tout ce qui nous... Surtout si vous avez une nature déjà un peu anxieuse.
Oui, c'est ça. Mais
pas plus de 5 minutes les chaînes d'infos.
Ah oui, bah là, oui, j'ai banni ça, j'ai bien fait déjà.
Ça, c'est bien.
Et évitez les images. Ouais. Les images sont terribles sur le cerveau, sur l'inconscient. Écoutez la radio.
Oui, bah, c'est ce que je fais déjà, et je me suis aperçue, donc je regarde très rarement la télé, et un soir j'avais des recherches à faire, j'ai regardé l'écran, et là j'ai pas dormi avant je sais pas quelle heure, donc là je me suis aperçue de la nuisance instantanément. Voilà.
Mmh. Oui, donc je crois que vous avez à peu près compris comment vous fonctionnez, que vous prenez soin de vous.
C'est ça.
Il me semble.
Ouais.
Eh bien, merci Nathalie.
J'ai de bons conseils, hein. J'écoute pas mal de podcasts.
Ah, c'est gentil. Merci Nathalie, en tout cas. On fait une petite pause, Simon Broussel, et puis nous allons rêver avec Patrice qui nous a appelé.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Eh bien, c'est mon Broussel. Tous les vendredis, nous décodons un rêve. C'est une technique qui permet de mieux se comprendre, mieux se connaître. C'est Patrice, dans un instant, qui va nous raconter son rêve. Alors, c'est vrai que je vais juste rappeler que quand on rêve, ce qui est important, c'est les associations. Alors, il y a évidemment, quand on a fait un rêve, parfois, on a une association qui nous vient de manière assez spontanée, mais c'est pas toujours évident. Voyez, je prends l'exemple. Par exemple, vous rêvez que vous êtes dans un bar. Bon, c'est un endroit où on va rencontrer des amis, mais ça peut aussi signifier que c'est un endroit où l'on boit. Ça peut être un endroit où on a eu un rendez-vous très important dans la journée et qui s'est passé bien ou mal d'ailleurs, mais c'est pour ça que tout d'un coup, dans le rêve, on rêve qu'on est dans un bar. Vous voyez ? Donc c'est vraiment une association qui est forcément dépendante de ce que vous-même vous avez vécu ou de ce que vous-même vous allez penser, hein. Je vais prendre un autre exemple. Vous rêvez d'un lion. Alors, ça peut être tout simplement parce que c'est le signe astral et que vous avez peut-être rencontré un amoureux qui est du signe du lion. Ça peut être parce que vous avez envie d'aller en Afrique. Ça peut être parce que vous avez envie d'aller... Vous avez vu un cirque... vous voyez. Et ça peut être parce que tout simplement, vous avez envie de rugir de plaisir ou parce que vous pensez que vous êtes le roi des animaux. Donc, voyez bien que quand on rêve de choses, c'est très compliqué parce que il ne suffit pas de lire le dictionnaire des rêves où on va avoir une explication. C'est à vous de trouver qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot ou ce symbole. Et on sait que suivant les cultures, évidemment, suivant les vécus, c'est pas toujours la même chose. Le symbole peut varier. Donc il faut pas prendre à la lettre le symbole. C'est juste des propositions que peuvent vous faire justement les dictionnaires ou que je peux vous faire d'ailleurs, comme je vais peut-être le faire à Patrice. Bonjour Patrice.
Bonjour Brigitte.
Eh bien, racontez-nous justement votre rêve qui revient assez souvent, même s'il évolue, hein, c'est bien ça?
Bah, c'est un rêve qui évolue, en fait, qui dure depuis maintenant une vingtaine d'années. En fait, au départ, je marchais au bord d'un canal sur un chemin gravillonné et petit à petit, mes pieds décollaient du sol et j'étais emporté par le vent et j'étais bousculé de droite à gauche. En fait, j'avais pas géré, donc ça me réveillait à chaque fois, en fait.
Mm-hmm. Comme si vous envoliez, en quelque sorte. Hein, mais...
Alors, pas vraiment, en fait. C'était pas... Je me sentais, en fait, décollé, en fait.
Décollé, d'accord. Et bousculé de gauche à droite, d'accord.
Voilà. Et après, des années plus tard, oui, il s'est passé pas mal de choses, bien sûr. En fait, j'ai commencé... Ça me perturbait tellement la journée, en fait, ce rêve, que je me suis mis la nuit, en fait, retomber dans ce rêve, le même rêve, toujours au départ au même endroit, toujours au bord du canal. Et je marche, je cours, je fais un footing, et puis je commence à décoller. Et puis là, par contre, je commence à gérer mon vol. C'est-à-dire, je peux aller à droite, à gauche, monter, descendre. jusqu'à arriver avec les années à carrément voyager où je veux, c'est-à-dire aussi bien aller dans un autre pays ou partir dans l'univers, en fait, carrément. Mm-hmm. Avec sans problème de respiration, quoi que ce soit, je me sentais bien, arriver en apesanteur dans l'espace. Mais tout le temps pouvoir gérer mon vol, en fait. Et puis alors là, depuis un an ou deux, c'est marrant parce qu'en fait, ça commence pas tout à fait pareil, mais je me retrouve à voler, en fait. Sauf qu'en fait, mon vol, j'ai pas l'impression de voler, j'ai l'impression de survoler, je sais pas si je m'exprime bien. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai plus besoin de diriger. C'est-à-dire
vous prenez de la distance.
Pilote automatique. Et en fait, je suis au-dessus de tout. En fait, je survole, je vois, je regarde. Mais apaisé, en fait. Ça m'apaise vachement, en fait. Alors qu'avant, ça me réveillait.
Mmh. Et le canal, il est comment, ce canal?
C'est un canal avec un... C'est, vous savez, c'est
ce genre
de canal où... Ben, là, il n'y en a pas dans mon rêve, mais c'est le genre de canal où se promènent les péniches.
C'est ça, oui.
Et en fait, je suis là et je parle, il y a un ciel bleu et je suis aspiré un peu vers le ciel, en fait.
Mmh. Bah, écoutez, c'est un rêve pas forcément négatif, hein, en tout cas, même si au début, vous étiez un petit peu bousculé, mais on a l'impression que c'est un rêve qui indique que vous avez de plus en plus la capacité à prendre le contrôle de votre vie, ou en tout cas, à plus vous laisser influencer par les gens, hein, comme si vous aviez peut-être au début un peu tendance à vous laisser, à ne pas trop savoir ce que vous vouliez et à laisser peut-être un petit peu plus les autres décider à votre place. Mais là, visiblement, vous commencez à être un peu plus capable de
Alors, oui, en fait, les autres décident à ma place, mais on ne sait jamais. Par contre, j'étais souvent amené à décider pour les autres, donc peut-être que ça jouait un petit peu, ouais.
Alors, vous décidiez pour les autres, mais ce n'est pas vraiment ce que vous aviez envie.
Bah, disons que j'étais amené, à, dans mes fonctions, à prendre souvent des décisions pour les autres, en fait.
Oui, mais dans votre vie, parce que le canal et cette eau et ce ciel bleu, si vous voulez, c'est quand même une aspiration à quelque chose, à une tranquillité. Et d'être obligé de décider pour les autres, c'est quelque part être malmené de droite à gauche, alors que vous rêvez plutôt d'un chemin, comment dirais-je, assez tranquille. Le canal, c'est vraiment l'eau la plus paisible, voyez.
Ouais, en fait, en même temps, c'est vrai. Avant, je travaillais avec beaucoup de gens autour de moi. Maintenant, je travaille seul, donc forcément, ça...
Vous voyez, donc quelque part, même si c'était un choix de votre part, ce travail, et que vous décidiez de pour les autres, ça provoquait quand même chez vous une sensation d'être ballotté de droite à gauche. Me semble-t-il, hein, encore une fois...
C'est toujours une responsabilité de s'occuper des autres en permanence.
Oui, mais c'était peut-être plus lourd à porter que vous ne l'imaginiez. Peut-être, hein.
Bon, c'était pas lourd, c'était épuisant.
Ah bah... Oui, vous voyez, c'est parce que en plus, si j'ai bien entendu, il y avait quand même des graviers sur ce chemin, donc voyez. Et là, vous avez pris un peu de la hauteur.
C'est possible, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens en même temps. Ouais. Mmh. Disons que j'ai fait pas mal de méditation ces dernières années.
Mmh,
d'ailleurs, pour revenir au problème de sommeil, j'ai réglé mon problème de sommeil parce que j'ai bossé 25 ans la nuit et dans le milieu de la nuit, et en fait, j'arrivais pas à trouver mon sommeil sans être normal en France. Et je me suis expatrié à Bali, en fait, et vu qu'il y a 12 heures de décalage, j'étais pile poil dans mon horloge interne, en fait, ça me permettait d'avoir un sommeil plus équilibré, en fait.
D'accord. Mm-hmm. Pendant combien de temps?
J'y étais pendant 3 ans, là, je vais retourner d'ailleurs. Ouais. Je vais retourner, je suis rentré en France pour une petite opération, mais je vais repartir.
Mais bah écoutez, oui, le ciel est bleu là-bas. Hein,
oui, les sunsets sont magnifiques.
Bon, en tout cas, c'est un rêve assez, et d'ailleurs vous l'avez dit, hein, c'est le rêve que vous faites souvent et que vous contrôlez beaucoup mieux. C'est pas, je dirais que c'est pas tellement un rêve qui vous apprend des choses différentes de ce que vous savez au fond.
En fait, je suis assez lié avec les gens. En fait, je suis un peu empathe et c'est vrai que souvent quand je rencontre des gens depuis 4-5 ans. Le soir même de cette rencontre, en fait, je vais faire des rêves par rapport à cette personne. Et le lendemain, je l'appelle, je lui dis des choses et il s'avère souvent que ça match, en fait.
Mmh. Ouais.
Oui, vous êtes...
dans les rêves, en fait.
Vous êtes assez... assez oui, et vous voulez les diriger un petit peu, vos rêves.
Je ne sais pas comment vous dire. En fait, les rêves, pour moi, c'est un peu comme un espace de lecture, en fait. Mmh. J'ai l'impression que pendant les rêves, en fait, ça permet de synthétiser ce qui s'est passé dans la journée, en fait.
Oui, mais vous savez, le rêve, c'est ce qui nous permet, enfin, Simon Bruxelles disait il y a un instant que le sommeil, c'est ce qui nous permet de nous ressourcer.
Mmh,
et le rêve permet de nous ressourcer sur le plan psychique. Hein.
Mmh. Ouais, bon, moi, je suis, en tout cas, je suis un grand rêveur. Il n'y a pas une nuit où je ne rêve pas.
C'est sur le plan électrique, c'est indispensable. L'électricité du cerveau, il faut savoir que le cerveau fabrique de l'électricité et qu'il en emmagasine. On a fait des expériences, d'ailleurs, c'est utilisé dans certains services de police ou de l'armée, c'est d'empêcher les gens de rêver. C'est simple, quand il passe sur son activité cérébrale qui correspond au rêve, on l'empêche de rêver. Au bout de 2 jours, il devient fou.
Oui, parce que c'est la décharge.
Mais il ne peut plus décharger.
Psychique,
et donc il est en surcharge électrique et après on en fait ce qu'on veut. Il peut avouer n'importe quoi.
Même ce qu'il n'a pas fait.
Voilà.
Non, mais c'est bien, continuer comme ça. Vous avez une bonne manière de
c'est bien
d'évacuer.
Contrôlé, hein.
C'est bien. C'est voilà. Il y a rien d'autre à en dire. Merci Patrice, en tout cas, d'avoir partagé ce rêve avec nous. On va se faire une petite pause, on va revenir sur le Love Conseil. Je vous propose un carnet de notes. Et puis nous accueillerons ensuite Catherine Millet à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, dont elle nous parlera dans un instant. Commencement, nous allons donc recommencer avec Catherine Millet.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil.
Alors Seymour Bruxelles, vous savez que les gens ont parfois du mal à communiquer, notamment sur leur sexualité. Donc je propose ce carnet de notes. C'est un carnet scolaire que vous allez créer pendant un mois. Et chaque jour, vous allez donner une note sur 10 concernant la sexualité, l'amour, la tendresse dans votre couple. Ces 3 points, ça me semble essentiel. Alors évidemment, s'il n'y a rien de particulier, vous avez le droit de ne pas mettre de notes ce jour-là. Mais essayez quand même plutôt de mettre une note. Alors vous pouvez inventer un autre point si vous voulez. Moi, j'ai proposé ces 3 points, amour, tendresse, sexualité. Et donc, voilà. Pendant un mois, chacun va marquer dans son carnet ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de négatif, etc. Et puis, à la fin de la semaine, pour que ce soit encore plus clair, vous allez faire en 3-4 lignes, résumé ce qui s'est passé dans la semaine, qui a été bien ou pas bien. Et à la fin du mois, vous allez relever les copies, si je puis dire, les 2 carnets, et vous allez comparer vos notes, vos impressions. Et c'est franchement une étude qui va vous permettre de voir sur quel point votre couple s'entend particulièrement, sur quel point il est sur la même longueur d'onde, vous m'avez vu venir. Et là où il y a vraiment des divergences, et c'est intéressant parce que peut-être qu'il y aura une divergence, par exemple sur la tendresse, peut-être qu'il y en a un qui trouvera qu'il y a beaucoup trop de tendresse, ou pas du tout
assez.
Et c'est une façon de communiquer concrète, parce que c'est vrai que les gens ont vraiment du mal à communiquer.
Et d'arranger les choses.
Et évidemment, de rectifier ce qui ne va pas, et puis d'apprécier ce qui va, parce que c'est aussi important dans un couple de s'appuyer sur ce qui va bien. Alors Catherine Millet, je suis ravie de vous recevoir avec un livre qui vient de sortir, ça s'appelle Commencement, c'est aux éditions Flammarion. Et alors vous racontez un peu votre adolescence et puis tout votre parcours dans l'art, puisque on sait aujourd'hui que vous faites partie de ces personnes qui ont beaucoup contribué à faire évoluer l'art à Paris.
Oui, ce qu'on appelle l'art contemporain en fait. Oui,
oui absolument. Et alors je vais commencer par ce en quoi vous terminez votre livre, parce que je trouve que c'est assez extraordinaire. Vous dites que vous n'avez jamais spécialement mis votre nom en avant, que vous considérez presque que c'est un nom banal, Millet.
C'est un peintre quand même.
Oui, c'est un peintre, malheureusement, dont je ne suis pas l'héritière. mais c'est un nom assez répandu. Et surtout, et Catherine Millet, il y en a plein, on disait avant le bottin, quoi. Mais oui, il y en a plein.
Et en même temps, ce qui vous a rendu le plus célèbre, c'est un livre où vous n'avez utilisé que la première lettre de votre nom.
Catherine M.
La vie secrète de Catherine M.
La vie sexuelle.
Sexuelle, pardon.
Elle n'était pas. Le jour où j'ai publié
elle était plus secrète.
La vie sexuelle de Catherine M., elle n'était plus tellement secrète. D'ailleurs, elle n'avait jamais été vraiment secrète.
En tout cas, dans
je crois qu'on le comprend justement en lisant
Commencement,
ce nouveau livre.
Oui. Commencement. Alors, moi, je n'ai pas lu votre livre, La vie secrète de Catherine M. Bon, ça fait partie des choses que j'aurais dû faire et que je n'ai pas faites. On n'est pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Mais en revanche, j'ai trouvé très intéressant, justement, dans ce livre, parce que vous évoquez comment une femme qui a priori ne vient pas d'un milieu très libre peut être très libre sexuellement. C'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce que vous racontez dans Commencement.
Oui, en fait, souvent, justement après la publication de La vie sexuelle, les gens me posent posé la question et me disait mais comment vous expliquez que vous ayez été voilà aussi disponible pour plein d'expériences d'ordre sexuel. Alors c'est vrai que c'était la fin des années 60, les années 70, il y avait une liberté sexuelle qui malheureusement a tendance à disparaître, mais ça suffisait pas comme comme explication. Et j'ai commencé à réfléchir au milieu dans lequel j'avais été éduquée. Et je suis la fille, malheureusement ou heureusement, d'un couple qui s'entendait pas du tout. Ils passaient leur vie à s'écharper. Et ils avaient par ailleurs chacun une vie de leur côté, une vie amoureuse, une vie sexuelle. Et là aussi, on peut dire malheureusement, ils l'exposaient ou ils la laissaient apparaître un peu aux yeux de leurs enfants. Et je dois dire que moi, ça m'a appris la vie, quoi, en fait. Ça m'a appris la vie et ça m'a appris une chose, c'est que le mariage, l'amour, tout ça, le bonheur qu'on peut trouver là-dedans, c'est aussi, ça peut être assez relatif. Et en tout cas, ça m'a fait rentrer dans la vie sans a priori moral, voyez. Mes parents m'ont jamais fait la leçon de morale parce que ils n'avaient pas, ils pouvaient difficilement la faire et ils n'ont pas prétendu le faire non plus. J'ai pas eu, bon voilà, donc
vous n'aviez pas d'injonction de la part de vos parents sur la vie sexuelle maritale qu'il faut avoir.
J'ai pas le souvenir que ma mère m'ait mise en garde, fait attention, les garçons, ceci, cela, enfin rien du tout.
Et en même temps, vous n'avez pas eu tendance à croire au prince charmant puisque vous avez devant
absolument,
vous un couple
exactement
complètement discordant. Voilà. Oui.
J'ai une question, pourquoi ils restaient ensemble?
Pourquoi ils restaient ensemble? Je crois qu'à l'époque, on divorçait moins facilement qu'aujourd'hui. Ils avaient deux enfants. Donc, tant que les enfants étaient encore, il fallait encore les élever, on ne se séparait pas. Mmh. Et en effet, lorsqu'on a été plus grand, ils se sont séparés à ce moment-là.
Alors, vous commencez votre livre quand vous avez à peu près 16 ans. Hein,
oui, 15-16 ans. Ouais.
Et déjà, on sent qu'il y a quelque chose de libre dans votre façon d'aimer les poèmes. Votre meilleure amie, en plus, elle s'appelle Brigitte, elle est révolutionnaire.
C'était une terrible Brigitte, d'ailleurs.
C'est déjà pas mal, parce que à cette époque-là, vous auriez pu avoir des amis plus conventionnels.
Ah oui, non, c'est vrai, mais en fait, le livre commence là-dessus, sur ma rencontre avec, évidemment, cette Brigitte que vous évoquez, mais surtout quatre garçons, une bande de quatre, qui étaient en train de préparer une revue de poésie qui s'est appelée Strophe. Ils avaient 2-3 ans de plus que moi, ils étaient très entreprenants, assez audacieux d'ailleurs, parce que quand j'ai reparcouru le petit magazine qu'ils ont publié à l'époque, ils n'avaient pas froid aux yeux, et moi, j'ai accroché mon petit destin au leur, en quelque
c'est
sorte.
Ça, voilà. Oui. Oui. Et ça explique peut-être aussi toute la suite, parce qu'au fond, à 16 ans, on est très modulable, et c'est peut-être les premiers tuteurs, si je puis dire, qui vous ont libéré d'une éducation.
On est très disponible. C'est une des choses que je voulais essayer de comprendre en écrivant ce livre, c'est que, je crois que je le dis à un moment donné dans le livre, ma famille n'avait pas particulièrement d'argent pour m'aider, il n'y avait pas une morale qu'on m'avait enseigné. J'étais pas destinée à faire des études non plus. Et puis finalement, je m'en suis quand même sortie. Donc, par quelle voie on passe Voilà. Et c'est les rencontres de hasard, c'est les opportunités qu'on saisit, c'est la confiance qu'on fait à la vie. Je crois que cette ouverture et cette disponibilité que je pouvais avoir dans ma vie sexuelle, elle était très générale, en fait. Je crois que j'accueillais de la même façon des amis nouveaux, des choses nouvelles que je pouvais voir dans les galeries d'art, puisque j'en ai fait ma carrière. Donc voilà.
Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, quand on vous lit, ça s'appelle Commencement, c'est aux éditions Flammarion, je le rappelle. C'est ça qui est intéressant, Catherine Millet, parce qu'on voit vraiment chez vous cette capacité à apprendre tout ce qui peut vous permettre d'être libre. Il y a aussi pas de honte, hein. J'aime bien le passage où vous racontez que vous êtes en train de faire pipi et puis qu'on vous voit, mais et alors quoi.
Oui, enfin j'ai eu un peu honte comme ça sur le moment, et
mais
puis quand même je me suis
pas
dit
vraiment,
j'avais affaire à des gens pour qui eux-mêmes c'était pas très grave, quoi, en fait. Donc je l'ai compris immédiatement, donc j'en ai pas la honte, elle est partie aussi vite qu'elle était venue. Oui. Mais vous savez, j'ai écrit ce livre, je crois, en fait, j'ai compris en écrivant ce livre que d'une certaine façon, il avait d'autant plus de poids aujourd'hui que si je l'avais écrit, je sais pas, il y a 10 ans, parce que il me semble que aujourd'hui les gens très jeunes s'embarrassent de tellement d'interdits, s'auto-surveillent tous tellement, hein, on parle beaucoup de ça dans les médias, que je me suis dit, bah finalement, mon livre, il peut aussi montrer que il y a d'autres façons de faire dans la vie, qu'on peut surmonter ses peurs, ses craintes, etc., avec voilà, plus d'optimisme, j'irais, et plus de confiance dans la vie que ce que je peux constater autour de moi aujourd'hui dans les jeunes générations, quoi. Voilà, je le dis.
Moi, oui. je pense que c'est lié à l'image de soi, c'est que l'image a pris dans notre société une telle importance que les jeunes ne pensent qu'à ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce que je dois montrer, et ça prend toute la place.
Oui,
et ça freine tout le reste.
C'est l'auto-surveillance, ouais. C'est ce qui existe à travers les réseaux sociaux, et puis que ça voilà. Déborde dans les médias, on le voit bien. Oui, oui, bien sûr, c'est moi je trouve que nos sociétés démocratiques sont mal en point parce que elles sont un peu rongées par quelque chose qui est de l'ordre du totalitaire, la surveillance de soi, des voisins, etc. C'est ça, c'est ça.
Oui, des caméras partout.
Mais en même temps, et c'est tout le paradoxe, et c'est pour ça que c'est d'autant plus inquiétant, et je suis complètement d'accord avec vous sur ce que vous dites de la jeunesse aujourd'hui. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'ils prétendent être ouverts à toute possibilité. Ils prétendent être libres et en fait ils ne sont absolument pas libres, alors que vous prétendez pas spécialement être libre quand vous êtes adolescente, mais vous êtes ouverte à tout, donc forcément libre.
Oui, vous avez raison. Moi, dans ces revendications comme ça apparemment très libertaires d'aujourd'hui, il y a paradoxalement des interdits. Quand on se pose la question de savoir si les hommes trans peuvent faire des compétitions sportives avec les femmes, etc., voilà, on pose des questions de barrières quand même. Bon, lorsque les Noirs font des spectacles qui sont interdits aux Blancs, on remet des par anti-racisme, on remet des barrières quand même. Donc on vit dans ces paradoxes qui sont très très contraignant, enfin.
Et assez inquiétant, en effet.
Et assez inquiétant.
Pour notre
voilà.
Démocratie, on est bien d'accord.
Oui.
C'est intéressant de voir à quel point vous grandissez, si je puis dire, hein, dans ce livre au fil des pages, et vous avez très vite votre première fois, c'est quand même un homme avec qui vous êtes resté très longtemps, hein.
Oui, c'est vrai. Oui, ah oui, 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 c'est vrai. De ce point de vue-là, je suis assez conventionnelle.
C'est là où je dis, ça m'a fait sourire. Parce
oui,
que c'est
oui,
vrai
oui,
que...
oui. Ben, en effet, c'est
Daniel,
l'homme
hein,
qui m'a défloré, Daniel Templon, qui est aujourd'hui un marchand d'art très très connu, est aussi la personne avec qui j'ai vécu pendant 10 ans. Mais voilà, on avait un mode de vie très très libre.
Bien sûr.
Voilà, oui, lui comme moi.
Mm-hmm. Et alors, vous racontez. Comptez aussi donc que vous avez plusieurs hommes, qu'il y a des alors et je trouve aussi intéressant parce que on vous croit vous tellement libre que pas du tout susceptible d'être jalouse, mais vous racontez aussi à un moment donné que ça peut arriver. Hein,
Oui, j'ai même écrit un livre là-dessus entier. Bien sûr, il y a des allusions à ça dans ce livre-ci, mais après le succès de La Vie sexuelle et justement devant ce succès, comme les gens passer leur temps à me poser des questions, et comment vous avez fait pour avoir cette vie très libre, vous n'avez jamais connu la jalousie, et j'étais obligée de dire, non, je l'ai connue la jalousie. Et du coup, j'ai fait tout de suite un deuxième livre qui s'appelait Jour de souffrance, et qui racontait une crise de jalousie qui a duré des années, terrible, qui m'a fait beaucoup de mal. Mais voilà, je m'en suis sortie aussi.
Je ne sais plus exactement donc où est-ce que vous parlez de ça, mais j'avais trouvé que c'était assez intéressant parce qu'au fond vous n'aviez enfin à la fois tout était dit, rien n'était dit entre vous.
Oui, alors moi j'étais, enfin, je suis plutôt pour ne pas, enfin je suis pas pour la transparence absolue. Vous
non,
voyez
bah ça fait souffrir.
C'était un des mythes justement de cette libération sexuelle.
Oui, la période hippie.
Voilà, associée à
qui
cette,
a pas marché,
à cette période. On se dit tout, mais en se disant tout, on se fait un mal terrible quand même. Alors moi je crois que parce qu'en fait se dire tout, ça appelle les images. Savoir que voilà, l'autre est allé passer une soirée avec quelqu'un qu'on connaît pas, mais bon, ça reste abstrait, etc. On peut l'admettre parce que c'est notre philosophie de l'admettre. Il a sa liberté. Bon. À partir du moment où l'autre raconte, là, les images, ouais, l'imaginaire travaille et on se fait des images. Et là, les images, c'est terrible, hein, c'est mortel. Donc, là, on commence à souffrir. Donc, nous, on était plutôt dans, voilà, il y avait un accord tacite qui faisait on est à peu près libre, mais on se dit pas trop de choses.
Oui, oui,
voilà.
Oui. Mais de toute façon, il y a quelque chose de très immature de croire qu'on peut tout se dire.
Complètement.
Et puis derrière, c'est quoi? C'est la possession de l'autre.
Bien sûr.
Nietzsche disait, il vaut mieux un mensonge qui fait du bien qu'une vérité qui tue.
Ah oui, bien sûr. Il faut se méfier de la morale qui prêche la pureté. Vous voyez, il faut tout dire, il faut pas mentir, etc. Ça, c'est très dangereux.
Mais, et d'ailleurs, souvent, quand on a envie de dire à l'autre, c'est pour se dédouaner ou se déculpabiliser. finalement, ouais, on se fait du bien.
Soyons
réalistes. On se sent mieux, mais l'autre, non. On se sent pas mieux.
On se sent mieux, mais on fait du mal à l'autre. Ah, oui. C'est lui qui a le problème, évidemment. Ouais. Catherine Meillet, vous restez avec nous, on va continuer à évoquer justement tout ça, comment on peut devenir soi et se libérer des carcans de la morale, de la société grâce à cet ouvrage Commencement aux éditions Flammarion. À tout de suite.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous sommes avec Seymour Bruxelles aujourd'hui et nous évoquons notre énergie, l'énergie qui circule dans notre corps. Justement, Catherine Meillet, vous qui avez beaucoup utilisé votre corps, et vous en parlez beaucoup aussi dans ce livre Commencement aux éditions Flammarion, la sexualité, évidemment, c'est une bonne manière de recharger ses batteries.
Oui, de les décharger aussi d'ailleurs. Mais Oui, moi je pense que quand même à l'origine il y a une pulsion quand même. Moi je pense, enfin voilà, vous me direz si je me trompe, mais en fait c'est la sexualité, c'est la libido qui nous fait agir dans beaucoup de choses et pas simplement dans notre vie sexuelle.
Si nous sommes là à parler tous les trois, c'est parce qu'il y a eu la libido à un moment donné. Déjà. Ça c'est la vie, quoi.
Bon,
déjà.
Alors, voilà.
Et pour la médecine chinoise, l'énergie sexuelle c'est 50% de notre énergie.
Oui. Alors, voilà.
Oui. Mais 25% pour les reins et 25% pour tout le reste du corps.
Vous le dites.
Et 50%, voilà. Enfin, c'est la médecine chinoise. Et puis, je suis tout à fait d'accord. Mais pourquoi? Parce que c'est la reproduction. Et s'il n'y a pas de libido, il n'y a pas de reproduction. Donc, c'est la fin de l'espèce. Ouais. 50% de l'énergie, et qui se situe dans le, on en parlait tout à l'heure, dans le hara, dans le centre énergétique de l'homme. C'est énorme. Et on n'a pas conscience de ça. Souvent, cette énergie, elle est bloquée, et parce que nous, en tant qu'ostéo, on travaille beaucoup sur le bassin pour libérer l'énergie, sur le bassin, sur le sacrum, sur le sacré. Et on n'a pas conscience de ça, parce que dans notre société, on met toute l'énergie dans la tête, parce qu'on est tous des intellectuels, on est bloqué dans l'affect, dans les émotions, c'est-à-dire les intestins, mais c'est en dessous. Et l'intérêt des séances, c'est de ramener, en fin de séance, le patient, à la fin de la séance, il faut le ramener dans son bassin, dans son centre, dans son énergie sexuelle, 50% de l'énergie.
Vous savez, ce que vous dites là, à l'instant, ça m'évoque un écrivain anglais, mort depuis longtemps, qui était D.H. Lawrence, l'auteur du fameux amant de Lady Chatterley. J'avais publié un livre il y a quelques années sur lui, et lui avançait déjà à l'époque, au tout début du XXe siècle, cette théorie que, en fait, il n'y avait pas simplement notre cerveau, mais aussi notre ventre qui nous commandait, et que on devait aussi prendre en compte, voilà, ce qui se passait comme énergie vitale justement dans notre corps, dans le ventre. Donc ça m'intéresse beaucoup de vous écouter, parce qu'en fait ça rejoint ce qui était déjà des théories à l'époque.
Voilà. Oui. Et Brigitte qui est cavalière, quand on visualise un cheval
au galop, par exemple, le moteur, il est où? Il est derrière, vous voyez un peu la masse musculaire qu'il y a justement dans l'arrière-train du cheval. Et nous sommes des mammifères verticalisés, mais le moteur, il est toujours là. C'est là qu'il est, le moteur.
Dans le bassin.
Oui.
Mais sommes des animaux quand même, c'est ça aussi qu'il faut...
Il faut le rappeler.
Voilà, c'est toujours important. Avoir en tête. Oui, ça, je suis d'accord.
Des animaux pensants, oui.
Et parlants.
Et ce qui est intéressant, et je reviens aussi à une grande partie du livre, c'est qu'on peut aussi sublimer notre libido.
Bien sûr. Et
votre intérêt pour l'art, quelque part, c'est aussi une partie de votre libido, au fond.
Bien sûr. Mais ça, je crois que c'est une chose qui est reconnue. C'est qu'il y a dans le plaisir esthétique quelque chose qui vient aussi de cette libido. Et puis, d'une manière peut-être d'autant plus évidente dans l'art moderne et contemporain, que beaucoup d'artistes ont travaillé comme ça avec des matériaux très très concrets, vous ont mis dans des situations où vraiment on a l'impression d'être environné, d'être englobé par l'œuvre d'art. Bon, je tenais dans ce livre aussi d'ailleurs à décrire ce genre d'expérience lorsqu'on est vraiment presque en osmose avec une œuvre, et là il y a quelque chose qui rejoint la sexualité,
bien sûr.
Oui.
En tout cas ça il y a une extase au sens esthétique,
oui. physique du corps, et là je voudrais dire une chose, moi je l'ai ressenti avec certains peintres, et c'est pas dans tous les tableaux. J'ai pensé à Van Gogh, il y a des tableaux où il a donné énormément d'énergie, on ressent cette énergie, et il y a des jours il n'était pas là,
oui c'est sûr,
bah, il n'était pas là, sûr. Et oui, le tableau, oui. C'est pas une histoire de couleur,
bien hein, sûr,
vous comprenez,
bien sûr,
hein, c'est une histoire vibratoire, et le tableau ne donne rien.
Mais parce qu'en fait, une œuvre d'art, un tableau, une sculpture, c'est un objet concret, c'est un corps qu'on a en face de soi lorsqu'on en est le spectateur. Et justement, cette énergie que le peintre ou le sculpteur a mis dans son œuvre, ou pas mis, parce qu'il y a des fois
il était
où
pas bien.
il était moins en forme. Évidemment, c'est quelque chose qu'on en reçoit. Moi, je pense, et ça aussi, voilà, ça aussi, j'en parle. L'effet de présence comme ça avec les œuvres d'art. Ouais. Évidemment, aujourd'hui, quand vous consultez Google et pour à la recherche d'un tableau, vous n'avez pas la même émotion que lorsque vous êtes dans le musée en face de ce tableau.
Bien sûr, voilà. C'est comme quand on a quelqu'un sur un site de rencontre. Il faut le voir à un moment donné pour être sûr. Qu'on est sur la même longueur d'onde.
Voilà. Encore une longueur d'onde. Et le sentir.
Mais est-ce que justement, Catherine Millet, on a tous des préférences artistiques parce que ça correspond plus à nous,
oui.
c'est quelque chose qui fonctionne comme ça?
Bah oui,
vous diriez ça?
Bah oui. Mmh. Moi, je crois beaucoup au dialogue, au face-à-face, justement. Mmh.
On aime ce qui parle de nous, finalement, enfin d'une partie de nous.
Oui, de ce qui fait miroir, évidemment, là où on va se reconnaître, se projeter. Je me souviens d'avoir visité un musée à Florence avec un ami qui me faisait remarquer que les tableaux que je préférais, c'était toujours de très beaux portraits, de très beaux jeunes gens, comme ça. Et en fait, ça m'avait fait réfléchir parce que je m'étais posé la question, est-ce que c'est le jeune homme qui me séduit ou est-ce que c'est moi qui me projette en jeune homme? Voilà, ouais. C'était mon petit côté transsexuel à l'époque. Donc oui, il y a un effet miroir, comme ça, très, très important. Maintenant, c'est vrai, c'est mon métier d'essayer de faire la part des choses, de dire ce tableau-là, il est meilleur que tel autre, ou cet artiste-là est plus accompli que tel autre, etc. Mais après tout, qu'un tableau que moi je trouve pas bon plaise à quelqu'un, ça me dérange pas non plus. Je suis pas du tout dogmatique. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, c'est quelque chose qui a disparu beaucoup du monde de l'art, comme ça. C'était beaucoup plus dogmatique au moment où... dont je parle de mes débuts. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ouverture et d'ouverture d'esprit.
Bon, en tout cas, vous parlez bien de vous avec une franchise qu'on vous connaît. Hein. De toute façon, Catherine Millet, c'est pour ça qu'on vous aime ou qu'on vous déteste, d'ailleurs.
Merci.
Ça s'appelle Commencement, c'est aux éditions Flammarion. Merci, en tout cas, d'être venue nous en parler. Donc,
j'ai bien dit,
hein, ça parle beaucoup de sexualité, mais ça parle aussi beaucoup d'art. Merci, Simon Bruxelles. Ça s'appelle Le Corps Auto-Guérisseur, c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Lundi, on sera avec Samuel Comblaise. Voilà un sujet intéressant. Comment la sexualité sexualité peut nous aider à dépasser nos complexes. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce que oui, on n'est pas forcément beau pour avoir une sexualité riche, et on est parfois très beau, et pourtant on a une sexualité très pauvre.
D'accord, je vais revenir alors.
Vous allez revenir, d'accord. Allez, je vous embrasse, bon week-end à tous.